Alors les murs ne leur suffisent plus. Voilà qu'ils écrivent 01 dans le ciel maintenant.
Et si on faisait l'an 08?
Moi je crois que c'est un truc publicitaire. Une marque dentifrice ou blessive.
Non, non, ça m'étonnerait. On sait trop ce que c'est maintenant pour que ça change. 01, c'est 01.
Mr. President.
40 ans après mai 68, un an après la victoire électorale de Sarkozy, deux anniversaires que la grenouille place sous le signe de la résistance.
Happy birthday, Mr. President.
L'an 08, c'est du 13 au 20 mai sur la grenouille, tous les jours à 18h et tout au long de la journée de façon impromptue. Le candidat, dorénavant président Nicolas Sarkozy, ne cesse de multiplier les références historiques dans ses discours et insuffle une nouvelle vision de l'histoire via notamment les programmes scolaires. Nouvelle ou plutôt ancienne vision de l'histoire, puisqu'elle renoue avec celle du 19e siècle, moment où la Troisième République se servait de l'histoire pour exalter le sentiment national ou l'identité nationale. Un an après l'élection de Nicolas Sarkozy, alors qu'il a commencé à passer du discours aux actes, il nous semblait particulièrement important de décrypter ses usages de l'histoire. C'est ce que propose le CVUH, le Comité de Vigilance face aux usages publics de l'histoire. Cette association d'historiens est née en réaction à la loi du 23 février 2005, qui exige des enseignants qu'ils insistent sur le rôle positif de la colonisation. Et le CVUH cherche à diffuser des outils pour analyser les instrumentalisations politiques de l'histoire afin de nourrir le débat démocratique. Comment ? Eh bien en publiant, en partenariat avec les éditions Agone, des petits livres accessibles à tous. Le premier est sorti l'année dernière, il s'appelle « À quoi sert l'identité nationale ?» et a été rédigé par Gérard Noiriel. Et le CVUH vient de sortir son second ouvrage, c'est un petit dictionnaire critique coécrit par une trentaine d'historiens intitulé « Comment Nicolas Sarkozy écrit l'histoire de France ?» La Grenouille a rencontré deux auteurs, Laurence Decoq, professeur d'histoire en lycée et à l'IUFM de Nanterre, et Yann Potin, enseignant d'histoire médiévale à l'Université Paris 10.
On a écrit il y a un an, exactement au moment de la campagne électorale, un long texte, on était cinq à écrire ce texte, qui s'appelle « Le rêve passéiste d'un futur national libéral ». Il se trouve que lors d'une réunion du CVEH, on s'est dit qu'il y avait un petit peu quelque chose d'inédit dans ces références historiques, dans les discours électoraux. Que là, il y avait une forme de compulsivité qu'il était peut-être de notre devoir d'interroger. Et donc, on a fait ce texte collectif et ce texte a eu un succès absolument inédit dans ce qu'on appelle la blogosphère. Donc, il a d'abord été édité sur le site du CVEH, mais il a été ensuite pillé littéralement par l'ensemble des sites militants d'extrême-gauche jusqu'au site de Ségolène Royal, donc, qui évidemment se l'est approprié, c'était de bonne guerre. Et il a été vu à peu près 30 000 fois, si mes souvenirs sont bons. Donc là, on s'est dit, il y a une demande. Il y a une véritable demande sociale, il y a une demande de compréhension de ce qui est en train de se passer. Et donc, pourquoi pas, finalement, mettre ça en forme dans un ouvrage qui ferait un petit peu le point sur cette question-là.
Et qu'est-ce que vous répondez aux critiques qui disent qu'en fait, même en décryptant, en cherchant à décrypter le discours de Nicolas Sarkozy, on fait son jeu puisqu'on lui donne la vedette et finalement on ne cesse d'en parler?
Alors ça, c'est une question très intéressante parce qu'elle nous est souvent posée. Effectivement, je serais tentée de vous dire que nous aimerions avoir le droit à l'indifférence face à ce que fait Nicolas Sarkozy et que d'ailleurs ce serait ce qui le gênerait le plus parce que Nicolas Sarkozy déteste qu'on lui soit indifférent. Mais bon, il se trouve que malheureusement nous sommes dans une situation politique qui nécessite quand même une certaine vigilance et que lorsque nous assistons à ce type de manipulation, à ce type d'instrumentalisation, je crois qu'il est de notre devoir, nous en tant qu'historiens, en tant qu'enseignants, de se dire que là, notre champ de compétences est interrogé, il est même court-circuité, et donc nous avons le devoir de fabriquer des outils de compréhension pour l'ensemble des citoyens. Donc, nous ne lui donnons pas de l'importance. Nous savons tous hein, qu'il est un ventriloque aussi des discours, enfin de l'écriture de ses conseillers Henri Guénot et puis plus en amont Max Gallo. Nous ne lui donnons pas plus d'importance que ça, mais nous considérons qu'il fallait à un moment donné figer une forme de mécanique des usages de l'histoire, de telle sorte à ce que tout le monde puisse s'en emparer et de telle sorte à ce que tout le monde puisse avoir désormais une grille de lecture pour comprendre justement de quelle logique procèdent ces différentes instrumentalisations.
Mais alors, c'est pas nouveau qu'un candidat à la présidence ou qu'un président de la République emprunte des références historiques. Qu'est-ce qu'il y a d'inédit ? Quelle est la singularité de l'usage de l'histoire fait par Nicolas Sarkozy ?
Il y en a beaucoup. D'abord, vous avez raison de dire que c'est pas nouveau et que ça s'inscrit en effet dans une continuité. C'est ce que nous décrivons d'ailleurs dans l'introduction de cet ouvrage. Mais il y a des caractères inédits. Alors d'abord, deux choses. Le fait que ce soit pas nouveau n'empêche pas que nous ayons à le discuter et à l'analyser, avoir un regard critique et se demander justement quelle image cela souhaite donner de la société et de la vie politique en général. Maintenant, il y a quelque chose d'inédit chez Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup de choses inédites chez Nicolas Sarkozy. Pour faire vite, il y a d'abord cette forme de compulsivité. Compulsivité qui va s'incarner dans cette pioche tous azimuts, hein, dans cette pêche tous azimuts aux références historiques qui vont jalonner l'ensemble de ces discours électoraux. Vous allez avoir donc cette succession de personnages, d'événements, de moments qui va intervenir pour venir valider une thèse politique. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est le brouillage complet des références. Brouillage complet, puisque les références mobilisées, vous l'avez vu et on va en parler, sont des références qui s'étalent sur le spectre politique, de la gauche, voire même de l'extrême gauche, jusqu'à la droite, puisqu'il va jusqu'à Mandel, qui est un homme de droite. Et même jusqu'à Barrès, très récemment, qui est enfin sorti, il fallait qu'il le sorte de son chapeau, celui-ci. Donc vous voyez qu'il y a un spectre politique extrêmement large, et donc tous ces clivages droite-gauche, qui sont, si vous voulez, le moteur de la démocratie, de la conflictualité constructive d'une histoire, tous ces clivages sont brouillés. Donc ça, c'est une seconde chose qui nous semblait assez inédite. Et puis la troisième, alors, inédite ou non, je ne sais pas, elle procède de ce dans quoi nous sommes déjà depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire la politique spectacle, la politique marketing. Il y a une mise en spectacle de l'histoire par Nicolas Sarkozy qui adopte une temporalité qui est vraiment la temporalité de l'urgence. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a l'impression que les choses vont se poser, vont un petit peu qu'on va laisser un petit peu le temps à tout ça de prendre sa place dans l'espace public, eh bien non, à chaque fois il y a un effet de relance. Il y a un effet de relance avec une sorte de surenchère, parfois obscène. C'était le cas avec les enfants de la Shoah. Et puis par ailleurs, cette politique spectacle est relayée par des mises en scène extrêmement ritualisées de son rapport à l'histoire. Donc là, je pense notamment à la lecture de la lettre de Guy Mocquet, qui était donc cette injonction de lire cette lettre en début de chaque année scolaire, mais je pense aussi à chacun de ces passages dans des lieux qualifiés de lieux de mémoire qui procèdent à chaque fois d'une ritualisation.
Laurence de Kock, selon vous, la rhétorique de Nicolas Sarkozy est faite de litanie. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Une litanie, c'est une figure grammaticale, c'est une figure syntaxique qui consiste à accumuler des formules répétitives de telle sorte à provoquer un effet choc, un effet de mémorisation immédiat. Donc dans la litanie, il y a quelque chose de l'ordre de l'hypnotique. De ce point de vue-là, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un discours de litanie, on cherche, d'une certaine manière, à emmener l'auditoire avec soi dans une forme de communion collective, dans une forme de transe sur le plan musical, dans une forme de communion collective hypnotique qui vise donc à supprimer l'esprit critique. C'est-à-dire que quand on est pris dans une logique de litanie, on est uniquement dans l'écoute. De ce point de vue-là, c'est un procédé rhétorique extrêmement efficace dont Nicolas Sarkozy est loin d'être l'inventeur. Hein. Donc ça, c'est une première chose sur le plan, je dirais, formel. Sur le plan maintenant du contenu, la litanie chez Nicolas Sarkozy a ceci d'inédit qu'elle mobilise les figures historiques. Les figures historiques apparaissent les unes après les autres comme des personnages un petit peu théâtraux. Hein. Donc chacun vient l'un après l'autre sur scène saluer son public. Et du coup, ça donne au discours un effet de compilation qui fait que chaque personnage qui vient après le suivant annule le précédent. Et donc, ça procède là encore de cette volonté de brouiller les éventuels clivages. C'est-à-dire qu'au cas où l'auditoire aurait l'intelligence de se poser la question de qui était Jaurès, heureusement, la litanie et l'effet d'accélération lui permet d'être directement passé à Jeanne d'Arc ou à Blum. Donc, on ne se pose plus la question. Et du coup, ces personnages-là disparaissent dans l'effet rhétorique.
Et donc, alors justement, là, vous parliez de Jaurès. Nicolas Sarkozy a beaucoup fait référence à des personnages de gauche. Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. La raison qui me semble assez essentielle, en tout cas la plus efficace politiquement, c'est que Nicolas Sarkozy se pose comme le grand réconciliateur. Donc, dans une stratégie électorale, il faut se rallier les classes populaires. Et se rallier les classes populaires, eh bien, c'est mobiliser des figures historiques qui portent en elles, justement, l'histoire populaire, les mouvements sociaux, les conflits sociaux, tout ce qui est de l'ordre du social. Donc, mobiliser les références historiques de gauche, c'est une façon de faire passer le message que Nicolas Sarkozy sait entendre, il est à l'écoute de ces classes populaires que l'on a négligées avant qu'il arrive et qu'il se pose comme le sauveur de leur malheur.
Et en même temps, il efface l'aspect idéologique, l'idéologie de ces grands personnages.
Ah ben, évidemment, il les efface, parce que là, ce serait beaucoup plus difficile de légitimer leur mobilisation, hein, puisque Nicolas Sarkozy n'est quand même pas non plus la figure de gauche la plus éminente quand on regarde à la fois ce qu'il avait fait avant d'être candidat, hein, et puis ce qu'il s'apprête à faire aujourd'hui. Donc, il a tout intérêt à les effacer. C'est là où justement, c'est extrêmement subtil. C'est-à-dire que c'est une façon de dire « je vous ai compris », pour faire un mauvais jeu de mots. C'est une façon de dire « je vous ai compris », et en même temps, c'est une façon de ne rester que dans le discours.
Alors, vous pouvez donner un exemple, je ne sais pas, soit avec Jean Jaurès ou avec Guy Môquet, comment, en fait, Nicolas Sarkozy les invoque, mais tout en présentant qu'une facette bien choisie.
Je vais vous parler de Môquet parce que Môquet, c'est un exemple un petit peu particulier. Est-ce que Guy Môquet est évoqué comme une figure de gauche ? Je n'en suis pas du tout certaine. Hein. Vous avez vu que le terme de communiste pour qualifier donc l'appartenance politique de Guy Môquet n'est vraiment apparu qu'à l'extrême fin du débat sur justement la lecture de sa lettre. Hein. À un moment donné, Guénot a quand même concédé qu'il était communiste, mais enfin, il a fallu lui arracher de force. Hein. Donc, au contraire, là, il y a vraiment eu une volonté de passer complètement sous silence l'appartenance politique de Môquet. Môquet a été mobilisé pour, à mon avis, deux raisons essentielles. La première, c'est qu'il était jeune, hein, c'est qu'il avait 17 ans et qu'il fallait là construire de l'identification et notamment de l'identification chez les jeunes lycéens. Et vous savez que l'identification de nature affective chez les lycéens, ça fonctionne très très bien. Hein. Donc ça, c'était la première raison. La seconde raison, c'est que la lettre de Guy Môquet, c'est du pain béni, si j'ose dire, pour Sarkozy, puisque si on cache la date d'édification de cette source, elle est absolument impossible à dater, hein, puisque vous n'y avez que le véhicule de valeurs qui sont les valeurs du système sarkozien, c'est-à-dire valeurs familiales, valeurs du travail, valeurs patriotiques qui procèdent d'un détournement d'ailleurs du contenu de cette lettre, mais qui en tout cas, si elle est lue du point de vue d'aujourd'hui, peut apparaître hein, comme une valeur patriotique. Donc ça, c'était du pain béni, c'était la source qui pouvait venir valider complètement une idéologie politique. Bon, donc ça, c'est un peu autre chose Môquet que cette volonté de cliver le brouillage droite-gauche. Mais en revanche, nous développons dans le livre les figures de Blum, les figures de Jaurès et même d'ailleurs la figure de Marc Bloch. Alors ça, c'est un exemple intéressant. Cet historien qui, pour le monde des historiens, Marc Bloch, c'est vraiment la figure consensuelle, si vous voulez. Hein. C'est vraiment la figure de référence et c'est notre icône, on va dire. Bon. Et la façon dont Nicolas Sarkozy détourne et falsifie d'ailleurs les propos de Marc Bloch est particulièrement indécente. Elle est particulièrement indécente parce que la citation que reprend Nicolas Sarkozy ou Henri Guénaud, peu importe, encore une fois, partons du postulat qu'il n'est que ventriloque. La citation qu'il prend est une citation qui, dans le discours de Sarkozy, vise à fabriquer de l'identité nationale. C'est-à-dire chacun se retrouverait dans ces espèces de formules de reconnaissance nationale. Et en fait, Marc Bloch, lorsqu'il utilise cette citation, c'est une façon au contraire de dire « redonnons la parole à la population, redonnons la parole au peuple et redonnons-lui surtout des lieux d'expression populaire, des lieux d'expression dans lesquels il pourrait se reconnaître justement comme des acteurs historique de l'histoire. » Donc là, vous voyez qu'il y a une véritable manipulation et je laisse la parole à Yann qui brûle d'intervenir depuis tout à l'heure.
Non, pas du tout. C'est plutôt simplement rappeler cette citation.
Yann Potin.
Donc la citation, c'est la suivante. « Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir de Reims, sous-entendu au sacre des rois, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. » C'est-à-dire la mémoire de la Révolution. Donc les rois d'un côté, la monarchie et la tradition républicaine de l'autre. Le détournement est le suivant, c'est-à-dire que Sarkozy, au lieu de dire des Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, il disait on ne peut être Français si on ne vibre pas au souvenir de Reims et en même temps au récit de la fête de la Fédération. On voit bien comment là, le détournement, le brouillage se fait. Il suffit juste de déplacer un tout petit peu la phrase en parlant non plus de compréhension mais d'identité. L'enjeu n'est plus simplement de comprendre l'histoire mais de la vivre et d'en être l'incarnation. Donc voilà comment concrètement on peut détourner à partir d'une citation qui évidemment qui est complètement extraite de son contexte et qui n'a pas cette signification d'appel à la synthèse nationale, puisqu'en gros cette phrase est l'espèce de grammaire bonapartiste du candidat Sarkozy, puisqu'en gros il nous dit que la France est la synthèse entre la royauté et la République. À ce propos d'ailleurs, le fait que cette citation, qui se retrouve d'ailleurs en exergue d'un livre de Max Gallo publié en février 2007, « L'âme de la France », et qui constitue à plus d'un titre le bréviaire de cette religion nouvelle de l'histoire nationale réconciliée que Sarkozy a mis en avant durant cette campagne. Cette citation est donc extraite d'un livre qui se situe en 1940 et on a remarqué comment finalement toutes les références, et notamment beaucoup des références de gauche, se situaient avant cette barrière de 1940. Et Sarkozy lui-même, en ayant écrit dès 1994, ou fait écrire une biographie de Georges Mandel, c'est-à-dire, si j'ose dire, l'anti-De Gaulle, ou celui qui aurait pu être le résistant à la débâcle à la place de De Gaulle, qui était donc un homme de droite, la version droitière de Gaulle, comment Sarkozy, finalement, construisait à travers tous ses discours l'idée que 2007 et 1940 étaient deux moments équivalents. Il a voulu, et c'est pas pour rien qu'il insiste plutôt sur Blum, mais ne parle jamais évidemment des hommes politiques de gauche postérieurs à 1945, qui parle plutôt de Jaurès, qui parle donc de tout cet paysage politique de gauche antérieur à 1940, voire même lié à l'entre-deux-guerres ou à la Première Guerre mondiale, c'est parce qu'au fond, tout est fait pour que l'histoire s'arrête en 1940 et recommence en 2007. Et d'une certaine façon, si après tout De Gaulle n'est pas tant évoqué que ça, c'est parce que précisément c'est une véritable substitution. Sarkozy ne peut pas citer véritablement De Gaulle, non pas parce qu'il ne veut pas se placer dans cette situation, c'est plutôt qu'il veut prendre véritablement sa place. À l'inverse d'un Chirac qui lui se plaçait dans la filiation et qui a accompli différents actes qu'on pourrait qualifier de gaulliens dans sa carrière de président de la République, Sarkozy veut véritablement revenir à la source primitive de cette synthèse que le général de Gaulle avait accomplie. Et donc tout revient en permanence à ce moment de la débâcle, c'est-à-dire d'assimiler l'état de la France en 2007 à la débâcle de 40 et d'assimiler la possibilité d'un sauveur à son élection.
Et ça, c'est typiquement le discours, pour le coup, c'est typiquement un discours d'extrême droite. C'est-à-dire que c'est l'idée que nous avons perdu un âge d'or. Nous sommes dans une phase de décadence, c'est Barrès, nous sommes sortis d'un âge d'or, nous sommes dans une phase de décadence et le sauveur, l'homme providentiel, vient pour rétablir l'âge d'or. Ça, c'est quelque chose qui est présent dans tous les discours. Nous sommes en déclin, Mais grâce à moi, nous allons sortir du déclin en regardant devant, grâce à l'histoire qui agit comme un miroir brisé, qui est vraiment ce dont quoi on doit sortir pour aller de l'avant. Ce discours du déclin, ce discours de la décadence, c'est une mécanique politique vraiment essentielle chez Nicolas Sarkozy.
D'où l'idée, enfin l'utilisation de la formule j'ai fait un rêve, je fais un rêve. Vous avez compté, par exemple, qu'au discours que Nicolas Sarkozy a tenu à Marseille, il avait rêvé 46 fois.
Il a de la chance. Hein. Alors, plusieurs choses sur le rêve. Hein. La formule du rêve apparaît dans son discours d'investiture. Hein. Elle n'apparaît pas à Marseille, mais elle subit une inflation. Hein, parce que ça a dû marcher. On s'est dit que c'était, sur le plan marketing, c'était assez efficace. Donc effectivement, c'est à Marseille qu'il rêve le plus. Hein. Il rêve 46 fois. Et c'est là qu'il cite le fameux « Je fais un rêve ». Donc il cite Martin Luther King. Hein. Intéressant que Nicolas Sarkozy cite Martin Luther King. Quand on connaît un peu l'histoire de Martin Luther King, là encore, évidemment, c'est absolument indécent, mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas le personnage de Martin Luther King en lui-même, ce qui l'intéresse en faisant ça, d'abord, c'est de s'identifier à ce qu'est devenu dans la mémoire américaine Martin Luther King, c'est-à-dire qu'au regard des combats des Noirs américains, Martin Luther King est devenu, dans la mémoire américaine, la figure consensuelle. Ce qui n'était pas du tout à l'époque, hein, lors du mouvement des droits civiques. Mais bon, vous savez que le mouvement des droits civiques était extrêmement clivé et qu'il y avait des mouvements extrêmes et que lui, en revanche, était plutôt l'homme, on va dire, l'homme de la paix, hein, l'homme de la non-violence. Bon. Et aujourd'hui, parmi les figures de lutte pour le mouvement des droits civiques, Martin Luther King a carrément son jour aux États-Unis. Donc il est vu aujourd'hui comme celui grâce à qui tout est arrivé. Là encore, c'est une manipulation américaine cette fois de l'histoire des Noirs américains. Donc c'est tout bénéfice pour Sarkozy puisque c'est une manière de dire, vous voyez, peut-être qu'aujourd'hui on me critique, mais à l'avenir je serai reconnu comme l'homme qui a sauvé les faibles et qui a sauvé les opprimés. Très subtil. Et puis la deuxième chose, citer Martin Luther King, c'est aussi une façon de faire un petit clin d'œil aux États-Unis, hein, de faire un petit clin d'œil au rêve américain, et donc de dire que, bien sûr, la politique sarkozienne s'inscrit complètement dans ce modèle américain. Donc voilà, je fais un rêve, ça lui permet de mobiliser une formule qui est aujourd'hui complètement désubstantialisée, la formule de Martin Luther King qui est reprise tous azimuts, et puis donc de valider sa vision de la politique, donc celle dont je viens de parler, et puis aussi cette vision plus générale, de dire que Nicolas Sarkozy devient le réceptacle des rêves de tous les Français. Et là aussi, c'est extrêmement intelligent, si j'ose dire. C'est extrêmement intelligent parce que ce qu'on reproche au monde politique, ce que beaucoup de gens reprochent, c'est précisément d'être désenchanté. Hein ? Vous ne nous donnez plus de quoi rêver. Vous ne nous faites plus de quoi rêver. On est dans une espèce d'hyper-réalité, réalité économique déprimante, réalité politicienne déprimante, et on n'a plus de quoi rêver. Et ça, Nicolas Sarkozy le sait, donc mobilise ce registre-là en disant que lui va être une force de proposition enchanteuse pour l'avenir, hein, ce qui est évidemment un moyen non seulement de confisquer les rêves de ceux auxquels il s'adresse, en disant « ne vous inquiétez pas, je vais rêver à votre place », et ce qui est un moyen aussi de déréaliser politiquement ses propositions.
Et un moyen aussi de se poser comme sauveur. C'est lui qui va...
Voilà, ça valide ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est celui qui va porter les rêves des autres. Alors évidemment, les rêves des autres, il les fantasme, puisqu'il a une formule qui est absolument terrible du point de vue de la démocratie. C'est-à-dire que je crois que c'est « je suis celui qui fait les propositions », je suis celui qui fait les propositions et je suis celui qui les mettra en acte, c'est-à-dire qui fait tout. C'est quand même une manière détournée de dire je suis un apôtre du pouvoir personnel. Il faut l'entendre comme ça. Et je suis un antidémocrate fondamental. Il a une autre formule d'ailleurs qui est assez savoureuse. Il dit je veux une démocratie irréprochable. Alors évidemment, on peut l'entendre de deux façons. On peut dire qu'il veut revitaliser le débat démocratique, mais ce n'est pas du tout ça qu'il dit. Lorsqu'il dit « je veux une démocratie irréprochable », ça veut dire « je veux une démocratie qui, intrinsèquement, ne supporte pas d'être porteuse de reproches possibles ». Alors je ne veux pas une démocratie.
Une démocratie qui ne supporterait pas les conflits aussi, alors que c'est quand même l'essence même de la démocratie, non ?
Ah mais évidemment, Nicolas Sarkozy est l'homme du consensus. Tout ce bouquin vise à le montrer. Toute cette stratégie de désaffiliation politique des figures historiques mobilisées ou des moments historiques ou des événements ou des lieux vise à montrer que Nicolas Sarkozy veut fabriquer du consensus. Il veut dévitaliser ce qui est, vous avez raison, l'essence même de la démocratie, c'est-à-dire la conflictualité politique.
Et pourtant, il réfute, enfin, il dit réfuter l'idée de Fukuyama de fin de l'histoire, qui est l'idée que le libéralisme a triomphé, qu'il n'y a plus d'autres idéologies, et donc qu'il n'y aurait pas de conflit. Et Nicolas Sarkozy dit s'opposer à cette idée. Alors, qu'est-ce qu'il en est ?
Il dit s'y opposer, non pas du point de vue de ce que dit Fukuyama, hein, ça c'est comme choc des civilisations, si vous voulez. Fin de l'histoire et choc des civilisations sont deux formules qui n'ont d'efficacité que par leur résonance orale. Hein, ce sont des formules qui sont désubstantialisées dans son discours. Mais simplement, tout le monde les connaît, ces formules. Choc des civilisations, fin de l'histoire. Ça marche, mais ça ne marche que sur le plan rhétorique. Hein. Donc ce qu'il réfute, ce n'est pas l'idée de Fukuyama. Ce qu'il réfute, c'est ce que veut dire la formule si elle est sortie de son contexte, c'est-à-dire il réfute qu'il y ait la fin de l'histoire. Forcément, puisqu'il est l'avenir. Donc il ne peut pas y avoir de fin de l'histoire, puisque de toute façon, l'avenir va s'incarner en lui. Donc il est le dernier homme de l'histoire. Voilà, ça ne peut pas s'achever avant qu'il arrive. Après, alors là, ce sera autre chose. Mais ça ne peut pas s'achever avant qu'il arrive, puisqu'il est l'homme qui fait l'histoire. Il est l'aboutissement logique de ce grand panthéon de personnages historiques, hein, et il est celui qui est l'histoire en marche. Il aurait pu dire « je suis l'histoire en marche ». D'ailleurs, ses discours peuvent être lus comme ça.
Et en même temps, il est celui qui incarne le triomphe du libéralisme, donc la fin de l'histoire au sens de Fukuyama.
Oui, au sens de Fukuyama, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, il contribue à une nouvelle écriture de l'histoire, qui est justement basée sur cette non-conflictualité. Donc, il est l'incarnation de la victoire de l'histoire consensuelle.
On poursuit notre émission autour du livre « Comment Nicolas Sarkozy écrit l'histoire de France » avec deux des auteurs, Laurence de Kock et Yann Potin.
Et en quoi la vision de l'histoire de Nicolas Sarkozy est conservatrice ?
Oh, en bien des aspects. Alors, je pourrais insister sur ce qui nous semble le plus caractéristique et qui procède là de la logique 19e siècle, 3e République, on va dire. L'idée était de dire qu'il fallait fabriquer des républicains et fabriquer des nationaux. Donc, il fallait faire en sorte que l'identité nationale devienne la matrice politique la plus opératoire, le lieu qui transcende les différences, le lieu qui déconstruit les différences de telle sorte à ce que tout le monde puisse s'y reconnaître. Hein? D'où ce discours sur l'histoire du type 3e République, discours scolaire notamment, incarné par le fameux Ernest Lavis, hein, qui procède de la mobilisation de grandes références ou de grandes dates qu'il faut mémoriser pour s'immerger dans cette logique d'un pays porteur de progrès et en marche vers le progrès. Voilà. Donc Nicolas Sarkozy, à l'échelle étatique, reprend cette tradition historiographique-là. Hein, c'est-à-dire qu'il veut que chacun des Français se reconnaisse dans cette nouvelle matrice d'une identité nationale qu'il contribue à retisser et surtout à revigorer. Voilà en quoi sa vision de l'histoire est assez conservatrice, parce que je pense que vous savez quand même que depuis un siècle et demi, les historiens, les traditions historiographiques ont un petit peu évolué par rapport au temps de Lavis.
Alors, Nicolas Sarkozy a répété qu'il souhaite effacer les traces de 68. De quelles traces s'agit-il, Yann Potin ?
Moi, je crois que quand Sarkozy dénonce l'esprit de 68, il dénonce la totalité, le point d'acmé de cet univers de l'après-guerre qu'il a décidé d'achever. Et c'est là où tout, finalement, peut éventuellement s'enclencher et s'emboîter. Puisque si on admet que Sarkozy se propose de revenir en 1940, se propose de mettre fin politiquement à l'État-providence né de l'après-guerre. Et ça, je crois que c'est la chose la plus évidente sur le plan, cette fois-ci non plus des références historiques, mais des fameuses réformes, qui proposent de mettre fin à ce système précisément en faisant semblant d'employer le même vocabulaire, justement celui de la réforme. Donc, à partir de là, 68 est comme le point nodal qui marque l'ancrage définitif de l'après-guerre à travers la transmission entre deux générations, c'est-à-dire celle qui a connu la guerre et celle qui l'a pas connue, puisque finalement, qu'est-ce que c'est 68 sinon la volonté de poursuivre l'esprit de résistance au quotidien dans la société. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait aussi un petit peu le caractère folklorique de l'événement, puisque effectivement, on sait très bien que le gros problème de la génération des 68ards auto-revendiqués, c'est d'avoir eu des pères résistants. Et que précisément, ils avaient un problème de, si j'ose dire presque, de légitimité, de vivre dans une société opulente qu'ils avaient reçue en héritage sans s'être battus, sans avoir fait aucun effort. Donc, moi, je crois que mai 68 comme cible, c'est une façon de renforcer l'idée que c'est pas simplement l'après-guerre qu'il faut liquider, c'est tout l'univers sociopolitique qui en découle et qui va précisément de, disons, 1944 à, disons, 2007, c'est quelques 60 années. Et donc, c'est en tant que mai 68 est un prolongement un petit peu surjoué de l'après-guerre, ou d'une tentative de relancer l'après-guerre, d'une certaine façon, que Nicolas Sarkozy attaque mai 68, puisque lui, son propos, c'est de se placer dans l'avant-guerre, si j'ose dire, ou dans la guerre, en fait, permanente, c'est-à-dire contourner, et ça, je crois que c'est véritablement quelque chose qui fonctionne très bien, et qui est aussi le fantasme, finalement, d'une vision cyclique de l'histoire, mais aussi d'une vision, d'une histoire par carrefour, c'est-à-dire que l'histoire prend des chemins à un moment donné sur lesquels on peut revenir. Donc il suffit de revenir au moment de la croisée des chemins, mettons 1940-1944, revenir à ce moment-là dans les références communes pour l'effacer. Donc c'est un peu pareil avec mai 68, il suffit de faire comme si on pouvait gommer, si j'ose dire, l'addition, effacer l'ardoise. Voilà. Et en sens, pour moi, le rapport très trouble de Sarkozy avec mai 68, sur lequel d'ailleurs là on attend encore beaucoup, puisque finalement il en a beaucoup parlé au moment de la campagne, et puis depuis presque plus rien, et là maintenant ça y est, on est au mois de mai, et... est-ce qu'il va y avoir une nouvelle position, une prise de position, compte tenu évidemment du contexte des sondages, ça paraît assez peu probable, mais c'est dommage parce que je pense qu'on va manquer, oui, on va manquer peut-être un des points de ce double discours qu'il tient sur mai 68, c'est-à-dire à la fois tirer dessus à boulet rouge et en même temps mettre en acte un certain nombre des valeurs, si j'ose dire, désinvoltes, qui a pu caricaturer mai 68. D'ailleurs, à ce propos, dans L'âme de la France, dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire le livre de Max Gallo, qu'on peut en fait considérer comme la source de nombre de discours, à la fin du livre de Max Gallo, qui se présente comme une histoire, comme un manuel d'histoire, comme un petit Lavis des années 2000, puisqu'il s'intitule « Histoire de la nation des origines à nos jours », et dans cette histoire de la nation, donc, le Max Gallo repart des origines jusqu'en 2007, comme justement fin ou relance de l'histoire. Et à la fin de chaque chapitre, il y a des dates clés. Et le dernier chapitre, qui va de 1920 à 2007, justement, indique assez bien cette répartition complètement déséquilibrée du XXe siècle. C'est-à-dire on a 15 dates jusqu'en 1944, et ensuite, sur les 20 dates clés du XXe siècle, mai 68 n'apparaît pas et on passe de la fin de la guerre d'Algérie en 1962 au 10 mai 81.
Oui, et puis pour compléter ce que vient de dire Yann, il ne faut pas oublier que mai 68 est un moment récent de l'histoire au cours duquel la parole a été prise par les gens qu'on pourrait qualifier rapidement les gens d'en bas. Hein. Et la lecture historique, ou plutôt l'écriture historiographique de Nicolas Sarkozy procède d'une logique, d'une histoire vue d'en haut. Hein. Donc il y a là aussi une volonté de camoufler la possibilité que ceux qui font l'histoire sont les acteurs historiques, c'est-à-dire les acteurs sociaux, hein, c'est-à-dire les gens. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve particulièrement dans l'enseignement de l'histoire à l'école. Et en particulier, on a souvent reproché à mai 68 de mettre l'élève au centre du système, enfin d'avoir contribué à mettre l'élève au centre du système, d'avoir contribué à réfléchir justement à une forme de citoyenneté qui soit une forme de citoyenneté critique et non pas une forme de citoyenneté purement adhésive. Et balayer mai 68, c'est aussi une manière d'en revenir à cette fameuse citoyenneté d'adhésion, à cette fameuse figure de l'autorité, hein, et c'est tout à fait ce qui aujourd'hui se lie à travers les réformes des programmes scolaires, notamment ceux de l'école primaire, qui sont de ce point de vue-là assez édifiants, c'est-à-dire retour à l'autorité du maître, retour à la politesse, hein, retour à la Marseillaise, retour à ces valeurs républicaines figées dans l'histoire. Donc balayer mai 68 est aussi une façon de dire oublier qu'il a été à un moment donné possible pour des acteurs sociaux de prendre la parole et par des actes d'avoir une prise de position politique qui aille à l'encontre d'une personnalisation du pouvoir.
Yann Potin.
Oui, ça revient de toute façon à faire tout pour gommer ce moment critique de cette prise de parole qui effectivement a des conséquences sociales évidentes puisqu'il s'agit de toute façon de confisquer toute parole venant d'un monde ouvrier lui-même en pleine crise, donc de toute façon. Mais je crois que l'impasse sur mai 68, qui finalement n'apparaît pas tant que ça dans les discours de campagne, et c'est ça qui est frappant, c'est qu'il y a une survalorisation médiatique sur la base de quelques interventions, et notamment du mot d'ordre « liquider 68 », mais ce qui ne veut pas forcément dire justement liquider la mémoire d'un moment, ce qui veut véritablement liquider une posture. Et cette posture, elle existait avant 68. Elle existe après, évidemment. Donc, quand il dit liquider 68, c'est pas forcément en rapport direct avec l'histoire. Ça peut être un rapport direct, effectivement, avec soit une sociologie, et plus encore peut-être même une psychologie politique, puisque, et j'en reviens à ce thème qui décidément me travaille de plus en plus, c'est-à-dire, je pense que quand il dit liquider 68, c'est liquider davantage, disons, l'esprit critique issu notamment des sciences humaines, notamment d'une certaine tradition philosophique.
Hoppa ! En avant pour le grand bond en arrière. En avant, en avant, en avant. En avant pour le grand bond en arrière. En avant, en avant, en avant. En avant pour le grand bond en arrière. En avant, en avant.
Le fait de référer à des personnages qui sont lointains donne une épaisseur historique à justement la construction nationale. Donc là, il y a vraiment aussi l'idée de regarder très loin derrière soi. Donc ça, je crois que c'est important. Et puis la deuxième chose, c'est que là encore, sur le plan de la communication politique, en référer au passé et en référer au passé lointain, chez les gens, cela produit un effet vérité. Ça produit un effet vérité, d'abord parce que les gens ne connaissent pas forcément, justement, la complexité de ces personnages, la complexité des moments historiques qui sont évoqués. Et donc, il y a là une façon de les fossiliser et de les rendre inquestionnables. Et ça, sur la stratégie de communication politique, c'est relativement efficace.
Et puis, ça reprend, pour prolonger ce que vient de dire Laurence, ça reprend tout simplement un vieil instrument de légitimation qui est, je dirais, presque là d'ordre purement quantitativiste, c'est-à-dire plus on remonte dans le temps, plus on est ancien, mieux on est. On retrouve des vieux réflexes, là pour le coup, du 19e siècle, dans le cadre de la concurrence des nations du 19e siècle, c'est-à-dire où on a tout simplement une course à l'échalote pour quelle est la nation la plus ancienne. Donc en faisant non pas un pas de côté, mais un pas en arrière, puisque donc nous sommes en l'an 08, en faisant un pas en arrière, il est très très facile ensuite de retrouver tout un certain nombre de bons vieux réflexes et de rejouer, et c'est ça tout le paradoxe, non pas sur des choses inédites, mais des choses au contraire extrêmement anciennes. Donc finalement, Sarkozy est une sorte d'archéologue du sentiment politique. Il va rechercher, en décapant un certain nombre de couches et surtout en creusant profond, il va rechercher des... Oui, des vestiges et des réflexes, beaucoup plus que des pensées, des réflexes compulsifs, anciens, qui ne sont pas forcément vivaces, mais qui ont été tout simplement refoulés, qui sont là à l'état latent et qu'il s'agit de réveiller. Donc c'est un marchand de sable, mais au sens où le marchand de sable réveille avant de rendormir.
En avant, en avant, en avant, en avant pour le grand bond en arrière.
Et Nicolas Sarkozy fait beaucoup de références au Moyen-Âge.
Là aussi, ça ressort d'une reprise de tradition, un vieil acte républicain du XIXe siècle qui a consisté à fantasmer et à idéaliser la monarchie médiévale comme une monarchie tempérée par opposition à l'absolutisme. L'absolutisme d'époque moderne, c'est-à-dire, disons, des 16e, 17e et surtout 17e siècle, l'absolutisme Louis XIVien. Donc, on appelait au Moyen-Âge, là aussi, c'est encore faire un bond, hein, faire un pas en arrière de plus, en sautant par-dessus la tête de l'épisode absolutiste, qui est quand même le seul qui peut expliquer la Révolution française, épisode quand même extrêmement long, et à retrouver, avec notamment la figure de Saint-Louis, la figure, alors là complètement enfouie, en tout cas depuis plusieurs décennies, d'une monarchie républicaine, ou d'une monarchie proto-républicaine, c'est-à-dire d'une monarchie juste, d'une monarchie proche des administrés et des sujets. Un exemple, l'État capétien, justement, il oppose État capétien à État républicain, alors que, d'une certaine façon, il révèle complètement la forfaiture, puisque, évidemment, ces deux termes ne s'opposent pas. Capétien, c'est une dynastie, républicain, c'est un régime. Ça ne s'oppose pas terme à terme en termes de logique pure rhétorique. Hein. Il aurait fallu dire État royal ou État républicain, ou État capétien et État, je ne sais pas, moi, mitterrandien, à la limite, ou État, je ne sais pas, moi, férien. Mais donc, au fond, là-dedans, il y a l'idée d'une royauté tempérée, médiévale, qui serait pas du tout absolutiste, qui serait voilà, conseillée, modérée. Voilà. Donc, au fond, le Moyen-Âge est une façon habile, mais bon, en disant ça, c'est quand même bon, enfin, grossièrement habile, disons, de passer par-dessus la tête de ce qui est quand même la réalité de la monarchie dans tous les manuels d'histoire, et surtout de la monarchie telle que la Révolution l'a pourfendue, c'est-à-dire l'absolutisme royal. Donc voilà, on retrouve du coup Saint-Louis, on retrouve Jeanne d'Arc, voilà, toutes les figures classiques, là il n'y a aucune originalité, toutes les figures médiévales que Sarkozy invoque sont vraiment des tartes à la crème, tout simplement parce que là je crois que l'idée était vraiment bien de renouer avec un mythe ancien. Voilà.
Et est-ce qu'il y a une originalité quand Nicolas Sarkozy, là en tant que président, annonce que la France, par le baptême de Clovis, est devenue fille aînée de l'Église ?
Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser au 1500e anniversaire du baptême de Clovis en 1996. Là aussi, c'est reprendre une très 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 vieille lune, c'est-à-dire le fait que la tradition, si j'ose dire, conservatrice et catholique française valorise Clovis comme père fondateur plutôt que Vercingétorix, qui a été valorisé de manière, là aussi, assez caricaturale, il faut bien le dire, par les Républicains, hein, et finalement sublimé à travers le paquet de Gauloises en dernier ressort, hein, dans l'identité bleue de la France républicaine. Donc là, il n'y a aucune originalité. En revanche, ce qui est très surprenant, c'est de faire ça au lendemain du centenaire de la séparation de l'Église et de l'État, ou quasiment au lendemain, hein, et de prendre une position sur la non-laïcité fondamentale des origines de la France, qui est très problématique. Je passe sur, évidemment, l'idée que le baptême de Clovis n'a aucun rapport avec le baptême de la France. Hein. Ça paraît assez évident dans la mesure où le baptême de Clovis est une stratégie politique à un moment donné. La christianisation de ce qu'on appelle aujourd'hui la France a duré au moins jusqu'en l'an 1000, sinon au-delà, donc 500 ans après Clovis. Donc sur la réalité, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment, bon, là, une façon de flatter aussi, je crois, puisque après tout, ce discours-là, pour le coup, a été fait au Latran lui-même en décembre 2007. C'est aussi une façon de reflatter, si j'ose dire, la papauté. Et de la même façon qu'on parlait tout à l'heure de Martin Luther King, il s'agit de reflatter les États-Unis, c'est-à-dire qu'il s'agit de retourner comme un gant les ennemis d'hier pour tenter d'en faire des alliés de demain. Je dois dire que pour l'instant, la position de Sarkozy par rapport à Benoît XVI et à la papauté me semble pas encore assez claire pour qu'on puisse véritablement savoir si c'était juste une petite coquetterie et une petite politesse de chanoine d'honneur de Saint-Jean de Latran en visite à Rome, ou si ça voulait dire autre chose. Mais disons que, voilà, c'est sûr que ça fait un peu mal. Et surtout, on voit toute la distance parcourue depuis 96. Parce qu'en 96, les personnes qui disaient le baptême de Clovis et le baptême de la France, c'était clairement des gens de droite et d'extrême droite, enfin d'extrême droite même. Et alors que pourtant la droite était au pouvoir, Chirac n'a pas été aux cérémonies du 1500e anniversaire du baptême de Clovis. Ce qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit et là, pour le coup, on est dans la rupture. On voit qu'en 10 ans, enfin en 11 ans précisément, on a d'un côté un président de la République qui ne va même pas se rendre à ce qui n'est que des cérémonies, et de l'autre, 10 ans plus tard, un président de la République qui lui prend à son compte le discours, non plus simplement en assistant à une cérémonie, mais en étant l'acteur même d'une cérémonie, cette fois-ci non plus à Reims, mais à Rome même. Donc là, c'est sûr qu'il va falloir regarder ça de près, et il va de soi que tout ça est certainement connecté aussi à toute la politique culturelle de Sarkozy, qui a été une de ses spécialités en tant que ministre de l'Intérieur. On le sait, on sait que c'est clairement une de ses cartes de resacraliser une partie de l'espace politique. Mais ce serait mon avis un peu rapide de dire voilà, Sarkozy, royaliste ultra, etc. Je pense que pour l'instant, il faut qu'on attende encore un peu. Mais effectivement, c'est quand même, il faut là pour le coup être vigilant, vraiment.
Yann Potin, dans ce livre qui est construit comme un dictionnaire, donc « Comment Nicolas Sarkozy écrit l'histoire de France », vous avez rédigé une notice intitulée « Pavillon de la lanterne ». Alors vous pouvez nous raconter cette histoire entre Nicolas Sarkozy et le pavillon de la lanterne?
Ouais. Alors finalement, on pourrait peut-être le connecter avec ce qu'on disait un peu auparavant sur cette espèce de nécessité dans le discours de faire l'impasse sur le moment absolutiste. C'est-à-dire sur Versailles. Effectivement, Louis XIV, vous pouvez y aller, il est évoqué de temps en temps, mais enfin bon, de manière extrêmement détournée. Donc l'idée de cette notice, c'était justement de passer du discours aux actes. Et comme c'est le premier acte du président, avant même qu'il soit vraiment en exercice, on peut s'y attarder un petit peu. Puisque en fait, il s'agit de voir si insister sur le Moyen-Âge dans les discours, et en fait agir comme si on était Louis XIV. Parler de la République et de Jean Jaurès d'un côté, et en même temps agir comme Bonaparte. Alors maintenant j'en viens à qu'est-ce qui s'est passé. C'est un détail, un petit détail, mais qui me semble être un geste fort. C'est très simple. Le pavillon de la lanterne est un hôtel particulier, disons, construit dans le parc de Versailles, au bord du parc de Versailles, construit à la fin du XVIIIe siècle, un pavillon privé. Mais il s'est retrouvé, ce pavillon privé, dans le domaine de l'État. Et en 1959, le général de Gaulle a décidé de l'inclure dans le parc immobilier de l'exécutif, en ne se l'attribuant pas pour lui-même, mais en l'attribuant au Premier ministre et en l'attribuant comme sa résidence privée. Donc il s'agit bien à chaque fois de dédoubler, après tout. Voilà, l'hôtel Matignon, c'est la résidence publique, la résidence officielle, et en l'occurrence, le pavillon de la lanterne, c'était la résidence privée. Tous les premiers ministres y ont résidé, y compris Michel Rocard, Lionel Jospin, etc. L'ont fait aménager, etc. Donc c'était vraiment une résidence tout à fait utile et utilisée. Et Nicolas Sarkozy, avant même son intronisation officielle, donc le soir même du 6 mai, a fait une demande à Dominique de Villepin, titulaire donc de cette résidence en tant que Premier ministre, en lui demandant s'il pouvait lui prêter pour passer le week-end cette résidence. Et ce prêt temporaire s'est transformé en transfert définitif, puisque Nicolas Sarkozy a souhaité non seulement y résider au retour du célèbre voyage de Malte, mais surtout, cette résidence privée du Premier ministre, il a souhaité qu'elle devienne la résidence privée du président de la République. Donc déjà, en soi, on a là l'annonciation de tout ce qui va suivre, c'est-à-dire en gros la mise à l'écart du Premier ministre, hein, puisque même ces résidences privées sont fondues avec celles du président. Bon. Évidemment, ce qui est beaucoup plus troublant, et c'est ça qui nous occupe plus, c'est qu'il est dans le parc du château de Versailles, et que donc au bout du jardin, il a son propre jardin, évidemment, avec un enclos, et qu'au bout, il y a une porte qui ouvre directement sur le parc. Et évidemment, là, c'est beaucoup plus troublant, parce que si on reparcourt, comme Sarkozy l'a fait dans tous ses discours, toute l'histoire de la France depuis la Révolution, depuis que le pouvoir exécutif a quitté Versailles, donc le 6 octobre 1789, quand on fait le compte, on se rend compte qu'aucun titulaire de la fonction exécutive suprême n'a résidé dans le parc de Versailles, donc à proximité du château depuis 1789. Ce qui est, alors là, pour le coup, assez énorme et qui est là une vraie rupture. Et là, un passage à l'acte. C'est bien un acte au sens fort du terme et un passage à l'acte dans le sens où, eh bien, on retrouve tout d'un coup, en fait, une proximité que, même si elle est justifiée par Sarkozy, sous-entendu justifiée, ou en tout cas elle l'était encore quand il faisait du jogging, maintenant il ne fait plus tout jogging, mais bon, à l'époque il justifiait cela pour des raisons sportives, hein, le parc de Versailles, et c'est d'autant plus troublant que là encore on a une incroyable dialogue avec le temps et l'histoire. Donc on a là une espèce de désinvolture complète avec l'histoire, parce que je ne pense pas que ce serait vraiment lourd de dire que par là, Sarkozy se prend pour Louis XIV. C'est juste qu'il est tellement à côté de la plaque et dans le brouillage qu'il ne se rend même pas compte de son passage à l'acte. Parce que, évidemment, ils y ont tous pensé avant lui. C'est pas, il ne l'a pas découvert. Napoléon y a pensé d'abord pour commencer. Évidemment, il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Bon, et quand la République s'est installée au lendemain de la Commune à Versailles, pendant la Commune, de manière totalement imprévue, du fait du siège de la ville par les Prussiens, la seule chose qu'on a pensé, c'est surtout qu'il ne fallait pas y rester longtemps, et que la seule chose qu'on pouvait laisser à Versailles, ce n'était pas le pouvoir exécutif, mais plutôt le pouvoir législatif. Et d'ailleurs, c'est un des héritages de la Ve République que le château de Versailles est le seul lieu de réunion du Parlement en Congrès, c'est-à-dire du Sénat et de l'Assemblée réunie. Donc, vous voyez qu'au contraire, on a essayé de renforcer le pôle législatif de Versailles, hérité du serment du jeu de paume, si j'ose dire, plutôt que son pôle exécutif. Et on peut même dire peut-être que De Gaulle, en donnant en 59 cette résidence, non pas pour son propre usage, mais pour le Premier ministre, c'était une façon de dire, vous voyez bien que je divise le pouvoir exécutif. Hein. Bon, c'est pas moi qui peux habiter à Versailles. Donc, je crois qu'on a là, dans ce geste qui est à la fois sursignifié, c'est-à-dire de demander et de récupérer le pavillon de la lanterne, une espèce de condensé incroyable, à la fois des significations qu'il faut chercher à la manière dont Nicolas écrit l'histoire de France, dont Nicolas Sarkozy, pardon, écrit l'histoire de France. Mais au-delà, la manière complètement absurde avec laquelle il en traite de manière désinvolte.
Alors justement, pour conclure, Laurence de Kock.
Il y a effectivement des formes de passage à l'acte qui peuvent être qualifiées un petit peu de naïves, ou en tout cas qui procèdent d'une forme de décomplexion totale par rapport à l'histoire. Il y en a d'autres qui, à mon avis, le sont beaucoup moins, et qui procèdent là, en revanche, d'une mise en pratique très idéologique de ce discours sur l'histoire, et surtout très volontariste. Je vous donnerai deux exemples. Le premier concerne les programmes scolaires, et notamment les programmes scolaires de l'école primaire. Et les nouveaux programmes scolaires sont d'abord complètement déshydratés, c'est-à-dire qu'on n'est plus que dans la date et l'homme et l'événement qui y correspond, reviennent exactement aux figures historiques qui sont celles des discours électoraux d'ailleurs, hein, c'est-à-dire de Vercingétorix, alors là Vercingétorix est là, hein, il refait sa grande apparition, Vercingétorix, Clovis évidemment, Saint-Louis, hein, qui se redore de son saint avec une majuscule, hein, c'est pas Louis IX, c'est Saint-Louis, hein, c'est le roi justicier chrétien, Saint-Louis jusqu'à Jeanne d'Arc, hein, parmi les grandes figures emblématiques consensuelles. Donc là, vous avez véritablement la mise en place dans les programmes scolaires de cette écriture de l'histoire, qui sont relayées par ailleurs, et ça c'est quand même assez intéressant, par le remplacement de l'éducation civique, qui à l'école primaire s'appelait le vivre ensemble. La formule est peut-être un petit peu vide, un petit peu démago, on peut y mettre ce qu'on veut, mais enfin, malgré tout, il s'agit quand même d'apprendre à vivre ensemble. Et bien là, c'est remplacé par le retour à l'instruction morale et civique, terminologie de Jules Ferry, hein, instruction morale et civique, dont le fil rouge depuis l'école maternelle est la politesse. C'est-à-dire que la notion en tant que telle, politesse, revient de façon programmatique dans les programmes officiels de l'école primaire, avec tout un passage autour de l'adhésion aux valeurs républicaines, la Marseillaise. Alors dans les projets, il fallait se lever sur la Marseillaise. Là, ça a quand même un petit peu disparu. Mais donc là, vous voyez qu'il y a véritablement une incarnation, hein, et très pratique, parce que quand même, l'enseignement de l'histoire, c'est pas rien. Je veux dire, c'est le premier usage politique de l'histoire, hein, l'enseignement, il faut pas l'oublier. Hein. Donc là, vous avez incarnation complète de cette vision idéologique de l'histoire ou de l'écriture de l'histoire de France, quasiment exclusivement, hein, puisque je ne l'ai pas dit, mais c'est une vision très, très ethnocentrée qui est proposée. Deuxième exemple, autre usage public de l'histoire, intéressant, celui de la muséographie. Hein. Un projet de musée d'histoire civile et militaire qui sera situé aux Invalides, hein, qui s'appellerait vraisemblablement, nous on a envie de l'appeler le musée Cocorico, mais enfin il ne va pas s'appeler comme ça, donc ça s'appellera la maison de l'histoire. Hein. Et alors là, qui reprend, enfin qui met en scène, qui muséographie, je ne sais pas si le terme existe, exactement l'âme de la France de Max Gallo. Et dans le pré-rapport, il est dit noir sur blanc hein, qu'il s'agit de faire en sorte, je cite, que la France ne perde pas son âme. Donc là, vous voyez quand même hein, qu'il n'y a pas que de la naïveté, hein, il n'y a pas que de la décomplexion comme ça, un petit peu désinvolte. Il y a aussi une volonté dure d'incarner toute l'idéologie sarkozienne de revigoration d'une identité nationale.
Mais en proposant d'installer cette maison aux Invalides, on déshabille l'éducation nationale et la culture, le ministère de la culture et le ministère de l'éducation nationale, et de faire du ministère de la Défense le gardien de cette histoire nationale. Et ça, pour le coup, c'est extrêmement violent, extrêmement curieux, l'idée que le véritable panthéon national, ce sont les Invalides, que les véritables héros sont les militaires, que fondamentalement, l'histoire est faite non pas par les civils, mais avant tout par une armée de soldats qui se sacrifient pour la nation, et que l'histoire, c'est une histoire d'autant de sacrifices, et que la localisation même de cette cité-maison de l'histoire de France aux Invalides, et ou en tout cas sera, puisqu'on n'est encore qu'à la phase de préparation, là, une rupture majeure, mais majeure, dans toute l'histoire contemporaine de la France.
Et autre rupture majeure, hein, pour compléter, ce musée ne dépendra pas que du ministère de la Défense, puisqu'il s'agit en effet donc d'une politique patrimoniale, et que désormais la politique patrimoniale de la France, ça, il faut quand même le dire aussi, est passée dans les prérogatives du ministère Hortefeux. Hein, donc ministère de l'immigration, identité nationale, coopération camouflée de je ne sais quoi. Donc là, il y a une connexion qui est quand même assez, assez parlante hein, entre justement cette politique d'identité nationale et cette stratégie patrimoniale. Deuxième chose, ce musée, et comme d'autres fondations hein, qui sont en train de voir le jour, ce musée sera doté d'un budget extrêmement lourd pour financer les recherches. Donc on a d'un côté un démantèlement du CNRS, c'est-à-dire ce qui garantit quand même la neutralité hein, de la recherche, et une attribution de budgets absolument colossaux par des fondations qui, vous le voyez, sont quand même connotées politiquement de façon assez voyante, hein, assez expressive. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi à terme le risque de financement de recherche qui viendront valider ces thématiques et valider cette orientation de l'histoire. Dernière chose concernant ce musée, qui va finalement venir faire la boucle avec le premier exemple que je vous donnais tout à l'heure sur l'école, c'est qu'il y a un appel plus que sous-entendu, hein, il va y avoir un partenariat, si les syndicats de l'éducation nationale ne se mobilisent pas, il va y avoir un partenariat officiel et explicite entre l'éducation nationale et ce musée. C'est-à-dire qu'il y a un appel à ce que ce musée devienne en quelque sorte le relais patrimonial de l'éducation d'histoire à l'école.
C'était une émission basée sur le livre « Comment Nicolas Sarkozy écrit l'histoire de France » publié chez Agone par le CVUH, le comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire. Vous avez entendu deux des auteurs, les historiens Laurence Decocq et Yann Potin. Pour aller plus loin sur la question de l'instrumentalisation de l'histoire à des fins politiques, vous pouvez vous rendre sur le site cvuh.free.fr.
Eh ouais, on a des nouveaux collèges, collège de l'impunité, on va faire des bons élèves, les enseignants seront armés, les classes en béton armées, quant à la cour de récré conçue en fil barbelé. Eh ouais, enfin une nouvelle éducation, travail, famille, patrie, et éduquons la nation, vos gosses sont des junkies, qu'on les jette en prison, ce sont de malpolis, qu'ont des parents indécis. Eh ouais, on prend des décisions, les gens d'en bas sont mauvais en termes d'éducation, puisqu'ils gèrent mal leur mouflet, puisqu'ils tiennent mal leur maison, on va leur sucrer les allocations.
on nous dit « Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. » Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose, si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on ne voit jamais.
Qu'est-ce que tu fais?
Je regarde dans ma tête.
Si on faisait un pas de côté, les queues ne tomberaient plus en face des guichets. Si on faisait un pas de côté, les fusils ne tomberaient plus en face des soldats.
Qu'est-ce que t'es fait?
Eh ben, je m'amuse.
Si on faisait un pas de côté, les coups de pied n'arriveraient plus au cul.
J'ai fait un pas de côté, je me suis retourné, il a fait aussi un pas de côté et pan, je l'ai pris dans la gueule.
Si on faisait un pas de côté, au lieu de sonner chez soi, on sonnerait chez le voisin.
Allez, un pas de côté pour rêver ensemble l'an 08. Appelez le répondeur de Radio Grenouille pour y confier témoignages, souvenirs, fictions, analyses, colères, doutes sur mai 68 et les débats suscités par sa commémoration. Vos paroles surgiront à la radio et seront diffusées lors du forum du 29 mai au théâtre Tourski.
Et si on arrêtait tout?
Je vous laisse faire un pas de côté pour noter le numéro du répondeur.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
C'est bon?
Il y a comme ça pour y arriver.
Voilà, 04 95 04 95 82.
Allez, au boulot.